Bonsoir mes frères et sœurs.
Oui, le Seigneur, il est réel et il veut se manifester. Vraiment se manifester. Alors on va lire une histoire, deux mêmes on va lire. La première dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, ça suit de suite le sermon sur la montagne. Première expérience, Jésus prêche et un homme va faire une expérience avec le Seigneur. Il y avait une grande foule. Et apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui ont été vraiment touchés. Vous êtes d'accord, c'est écrit ça, qu'il y avait une grande foule. Alors, Matthieu chapitre 7, verset 28. C'est certainement le plus beau sermon qui ait jamais été donné sur terre. C'est le Seigneur Jésus qui prêchait des choses d'une profondeur inouïe. Matthieu chapitre 7, verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappé de sa doctrine, car il enseignait non pas comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Alors est-ce que c'est bien? C'est bien. Est-ce que c'est bien? La foule était frappée par la doctrine. Frappée. Vous voyez, le mot que le Saint-Esprit utilise montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé vraiment dans le cœur des gens. La suite. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Est-ce que c'est bien? C'est bien? C'est bien. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus réfléchit, une petite demi-heure, non? C'est comme ça que vous avez? Non. Oui, parce que nous on est dans la réflexion. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre, et bien sûr, tout le monde dit Amen. Alors, vous imaginez, le Seigneur Jésus débute son ministère, une grande foule se trouve là, et les gens, lorsqu'ils l'ont entendu frapper, ils ont été frappés. Il nous est dit que la foule a suivi Jésus, donc la foule le suit. Mais, au verset d'après, on voit quand même une différence entre un homme qui, lui, il s'approche. Il faut bien faire la différence entre suivre Jésus et s'approcher de lui. Qui c'est qui a été béni? Ceux qui suivaient ou celui qui s'est approché? Donc, on peut suivre Jésus, on peut le suivre, comme ce soir. Notre présence ici, quand même, prouve que nous le suivons. Vous êtes d'accord? On est là dans la maison du Seigneur, on est venu. On voulait partager un moment de communion fraternelle, chanter quelques cantiques, prier, écouter la parole de Dieu. Donc, on suit. Mais on peut suivre et s'approcher du Seigneur. Et l'homme qui a été béni est un homme qui, lui, s'est approché. Et il faut bien faire la différence. C'est peut-être la différence qu'il y a entre la bonne curiosité et le besoin. La curiosité, c'est une bonne chose. Tiens, je vais dans la maison du Seigneur, je suis curieux, tiens, il y a une église dans tel quartier, je voudrais savoir quel est l'enseignement. C'est ça, suivre. Je suis, mais je m'approche pas. Ce lépreux, lui, il avait écouté le sermon sur la montagne, il avait écouté des choses extraordinaires, comme le Notre Père. Il avait entendu, par exemple, c'est à toi qu'appartient dans tous les cieux le règne, la puissance et la force. Il a entendu. Vous êtes d'accord avec moi? Il a peut-être pas tout entendu, je sais pas si il était loin, il devait certainement se tenir loin, sa condition de lépreux l'obligeait à se tenir loin de la foule. Donc il était peut-être très loin, il a peut-être pas tout entendu, mais il a entendu suffisamment. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois on comprend pas tout, on n'entend peut-être pas tout, mais un mot, une phrase du Seigneur Jésus peut suffire à ce qu'on ait envie de s'approcher de lui. Vous êtes d'accord dans un sermon, est-ce qu'on peut tout retenir, est-ce qu'on peut tout comprendre? Non, mais il peut y avoir un verset qui nous indique qu'il y a quelque chose qui devrait se passer. Donc ce lépreux, peut-être que c'est le lépreux qu'on retrouve deux jours avant que Jésus ne soit arrêté, quand il est dit que Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui au fait? Est-ce que ça peut être lui? Eh oui, ça pourrait être lui. On ne sait pas comment il s'appelait. Ça pourrait être lui qui a eu l'honneur d'inviter dans sa maison le Seigneur Jésus. Tout ça pour dire qu'il y a des conversions et des attouchements divins qui durent jusqu'à la fin. Donc cet homme, il va faire une expérience. Il était loin, alors peut-être que la foule n'était pas dans le même besoin que ce lépreux, parce qu'il y a peut-être des problèmes que l'on traverse, qui indique aussi, qui facilite le fait de s'approcher du Seigneur. Vous savez, quand on est dans un gros problème, parfois, ça peut nous pousser. Quelqu'un qui a la grippe, je suis enrhumé. Est-ce que ça va me jeter à genoux pour chercher la face de Dieu? J'apprends demain que j'ai un cancer généralisé, que j'ai que 2 mois à vivre. Est-ce que ça peut me pousser différemment à crier à Dieu? D'accord, mais ça tient debout ce que je dis. Il y a des choses, alors qu'en fin de compte, c'est pas parce que j'ai le cancer que je vais mourir, et c'est pas parce que j'ai la grippe que ça va guérir. Vous voyez, comme quoi on est conditionné par certaines choses. C'est pas forcément malsain. Donc cet homme, lui, il est là, il est loin, il est obligé. Il était obligé de se tenir loin de la foule. Mais il a quand même entendu, la preuve, c'est qu'il a voulu s'approcher de Dieu. Et la question qu'on peut se poser ce soir, je me suis approché de Dieu. Oui, je me suis approché de Dieu. Je me suis approché de Dieu quand? Quand est-ce que c'est la dernière fois où je me suis approché de Dieu? Est-ce que je ne ferai pas partie de cette foule qui suit? Parce que c'est intéressant de suivre le Seigneur, parce que c'est quand même formidable d'écouter la prédication de la parole, c'est formidable d'avoir des frères et des sœurs avec qui on a la même connivence spirituelle. Est-ce que c'est bien d'avoir des frères et des sœurs? Ben ouais, c'est extraordinaire, oui ou non? D'être dans une église, d'avoir des frères et des sœurs, c'est un bienfait insoupçonné. Si vous avez un doute, partez dans un endroit où il n'y a aucun chrétien, et allez-y pendant 5 ou 6 ans, et puis après vous allez voir que vous allez changer votre façon de considérer l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a plein de bénédictions que l'on peut suivre. Mais il y a quand même quelque chose qui est là dans la Bible qui nous prouve que l'on peut être vraiment touché par Dieu. Ce lépreux, normalement, il aurait dû s'entendre dire par Jésus, écoute, t'as pas à t'approcher, retire-toi. Est-ce que Jésus aurait pu lui dire, ta place n'est pas là? Est-ce que Jésus aurait pu lui dire? Ben oui, si Jésus avait voulu faire plaisir aux pharisiens qui étaient là, d'ailleurs, ils devaient être furieux ceux qui ont bu ça. C'est pas étonnant que de suite ils ont été contre le Seigneur Jésus-Christ. Jésus aurait pu lui dire, ta place n'est pas là, je viendrai, tu te tiens là-bas, 200 ou 300 mètres, je viendrai après. Non. Quand on s'approche du Seigneur, il est là pour nous toucher. Et cet homme a été touché parce que Jésus l'a pas que guéri, il l'a d'abord touché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est écrit. Jésus étendit la main et le toucha. Et c'est ce que nous pouvons vivre ce soir, être touché ou être retouché. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais une deuxième histoire à lire avec vous dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, même chapitre aussi. Un homme qui a été touché 2 fois par le Seigneur. Marc, chapitre 8, verset 22. Vous connaissez certainement cette affaire. Jésus, là aussi, vous voyez, là par contre, il y a un drôle de contexte. Marc 8, 22. Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Le but est le même, il faut que Jésus touche un homme qui est dans un besoin. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Pourquoi il ne l'a pas béni sur place? Vous avez déjà réfléchi? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Le lépreux, il aurait dû justement le conduire hors de la foule. Et là, l'aveugle, le Seigneur l'amène hors du village. C'est drôle. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Non? Alors, si vous voulez comprendre, il vous faudra lire dans Matthieu chapitre 11, je crois. Il y a une histoire, vous le lirez chez vous. D'accord? Vous le lirez chez vous et vous comprendrez comment on peut se mettre contre Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut se mettre contre Dieu? Il est parlé dans la Bible de ne pas lutter contre Dieu. Et ces gens à Bethsaïda, ils ont vraiment fait une grosse erreur. Et vous le lirez et vous verrez combien, même pendant la grâce, il peut y avoir des paroles de jugement, des paroles sévères, qui font que Dieu ne pourra pas nous toucher. Et heureusement qu'il y a ces textes qui nous prouvent que même si le jugement vient, est-ce que le jugement il vient? Est-ce que la colère de Dieu, elle vient? Ben, c'est évident. Aveugle et fou sont les gens qui ne le voient pas. Complètement insensé. Le jugement était tombé sur Bethsaïda, ils n'ont pas voulu de Jésus, ils l'ont mis dehors, et le Seigneur prononce une parole sévère. C'est pour ça que Jésus n'a pas béni cet homme dans la ville de Bethsaïda, il l'a pris ailleurs, parce que cette ville, elle était programmée par leur propre faute au malheur. Donc Jésus le sort du village, ce qui prouve que même si la colère est là, la colère vient, le jugement vient, le Seigneur il est prêt à bénir les gens. Alléluia. C'est formidable ça. De savoir que même si la colère, parce que quand même, on pourrait être axé uniquement sur les textes qui parlent de la sévérité de Dieu, de la colère de Dieu, de l'Apocalypse, et de tous ces textes qui quand même sont sévères. Qui a parlé de la gêne? Combien de fois il est parlé de la gêne dans la Bible? Tiens. 12 ou 13? Vous êtes sûr? 12 fois. Et 11 fois Jésus en parle. Après, je crois que c'est Pierre qui en parle une fois. Ou non Jacques. C'est pour vous dire qu'on pourrait prendre tous les textes sévères que le Seigneur Jésus a pu utiliser. Parce qu'il y a un jugement qui vient sur la terre. Mais voilà, le Seigneur est encore assis sur le trône de la grâce. Et même, voyez, si des villes comme Bethsaïda étaient programmées à la misère, il n'empêche qu'un aveugle a réussi à obtenir la bénédiction du Seigneur. Et dans Toulouse, ou dans Limoges, ou dans Aix-les-Bains, je ne sais pas, n'importe où, le Seigneur peut bénir quelqu'un. Vous le croyez? Donc cet homme, il a été béni, on va lire la suite. Donc Jésus le conduit, il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Donc Jésus touche cet homme. Alors cet aveugle, il regarde, il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai entendu quelqu'un qui a dit, Jésus était fatigué. Non, c'est plutôt la personne qui me disait ça qui était fatiguée. Moi je pense que la révélation, la guérison, certaines faveurs sont progressives. Et que même si le Seigneur nous touche, il a besoin de nous retoucher. Et de nous retoucher, et etc. Le nombre de fois que cela va être nécessaire. Et certains n'ont pas été bénis. Ils ont été bénis une fois, mais fait mourir des arbres marchés, c'est mieux que de rien voir du tout. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préféreriez être aveugle ou voir des arbres marcher, y voir à moitié, voir des arbres traverser la route, c'est sûr qu'au niveau de la conduite, ça va devenir pénible. Mais franchement, vous préféreriez quand même y voir de travers, que de ne pas y voir du tout, au niveau physique je parle, oui ou non? Mais le Seigneur, lui, ne veut pas qu'on y voit de travers. Le Seigneur, il veut nous retoucher de nouveau. Et quand on a une réunion comme celle-ci, ou alors on se contente d'être touché par la parole et de dire « c'est vrai, c'est intéressant, oh, ça m'encourt, tiens, je vais relire l'évangile de Marc, je veux voir tous les miracles que Jésus a fait dans cet évangile, comment cet évangéliste retrace la vie de Jésus, tiens, ça m'intéresse, voilà, je suis de loin, comme cette foule. » Ou alors j'ai l'intelligence de dire « moi, je veux que le Seigneur, il me touche. » C'est maintenant, c'est pendant la prédication, un acte de foi, c'est après, peut-être je demanderai compris à côté, ou à la fin de la réunion, ou ce sera dans ma chambre tout à l'heure, mais moi je veux que le Seigneur me touche. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il veut le Seigneur? Ou est-ce qu'il sélectionne les gens en disant lui oui, lui, ah, il n'a pas donné d'argent dimanche à l'église, non lui, hop, c'est pas la peine. Est-ce que ça marche comme ça? Non. Celui qui veut être touché, il peut l'être. Si on ne l'est pas, c'est que... Ou alors on joue à la comédie. Est-ce qu'on peut jouer à la comédie avec Dieu? Est-ce qu'on peut faire du cinéma? Ben oui. Pas avec Dieu, mais enfin, on peut le faire sans s'en rendre compte. Moi, je vous dis que le Seigneur, il veut nous toucher. Et le nombre de fois que c'est nécessaire. Il y a des gens qui ont été touchés, je pense à Pierre. Pierre, il a été touché. Il a été touché, le Seigneur permet... utilise sa barque pour un certain sermon, puis après il va l'utiliser pour une pêche miraculeuse, et là, paf, Pierre tombe à genoux, retire-toi de moi, je suis un homme pêcheur. Est-ce qu'il a été touché? Oui, il a été touché. Mais quand vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte que Pierre a dû être touché, non pas une fois, non pas deux, mais plusieurs fois. par rapport à son caractère. Il ne se connaissait pas. Il pensait se connaître, il pensait connaître les autres. Et Jésus l'a touché plusieurs fois. Il l'a touché là, à la pêche miraculeuse. Il l'a touché un peu plus tard, lorsque il marche sur l'eau et que Pierre, il est, mais si c'est toi, ordonne que j'aille. Ouais, il fallait y penser à le faire. Vous auriez pensé, moi, à demander à Jésus, tiens, si c'est toi. Moi, j'aurais pensé à tout, sauf à ça. J'aurais pensé qu'il vienne vite, mais pas. Franchement, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. C'est un drôle de gars, Pierre, quand même. Vous l'auriez fait, vous, ça? Est-ce que vous auriez pensé à le faire? Qui aurait pensé à le faire? Samuel. Non, moi franchement, je sais que jamais j'aurais pensé à un truc pareil. Et Jésus vient, et vous savez qu'il a dû être touché par Jésus parce que ça commençait à déraper. Vous rappelez l'histoire? Il va faire une expérience, il va être deuxième, touché par le Seigneur Jésus. Sa main va toucher la main du Seigneur. Plus tard, lorsqu'il croit se connaître et qu'il dit, voilà, quand Jésus dit, voilà, vous allez tous m'abandonner, etc. Ah non, tous les autres, oui, mais moi, ça ne risque pas. Et Jésus va le dire, avant que le coq ne chante, tu ne me renieras. Vous connaissez cette affaire? Et là, une troisième fois, il va être touché. Là, c'est pas par la même, mais par le regard de Pierre. Et Pierre va être restauré. Et quand on voit la vie de Pierre, on voit qu'il a été touché plusieurs fois. C'est différent de cet aveugle, mais ça fait rien. C'est exactement le même principe, être touché par la grâce de Dieu. Et je crois que nous passons souvent à côté de la grâce de Dieu, nous nous privons souvent de la grâce de Dieu, car laissez-moi vous dire que le Seigneur ne rejette personne. Je ne mettais pas dehors celui qui vient à moi. Et nous, on prend ce texte pour les pécheurs, c'est sûr. Oh, moi, j'ai déjà vu des gens je suis sûr que cette situation s'est trouvée plusieurs fois, je l'ai vu ici. Une prostituée viendrait écouter la parole de Dieu. Elle nous demanderait, voilà, est-ce que Dieu peut me pardonner? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien oui. Mais bien sûr que Dieu te pardonne. Moi, de suite, on me dit, mais oui, mademoiselle, Dieu peut vous pardonner, c'est sûr. Dieu vous pardonne, croyez-le. Et nous, on va et nous, les premiers, des fois, quand on commet une petite erreur, on ne se pardonne pas. Ou on doute du pardon du Seigneur. Oui ou non? Comme quoi, voyez, on a un problème. C'est la preuve qu'on a besoin, tout à nouveau, d'être touché par la grâce de Dieu. Et le Seigneur, il le fera. Et il faut le croire. Le Seigneur sait comment faire. Il n'était pas fatigué ce jour-là. Je veux dire, le Seigneur Jésus, il aurait pu le guérir d'une seule fois. Oui ou non? Et pourtant, vous avez vu, il le guérit en deux fois. Ce qui prouve qu'il faut rester avec le Seigneur, qu'il faut rester avec lui. Le gars, il aurait pu, non, je vois des arbres, qu'est-ce que c'est? Il aurait pu partir en courant. Au début, on comprend pas tout. Vous avez tout compris, vous, au début de votre conversion? Est-ce que vous avez tout compris? Mais non, même quand vous vous retournez, même moi le premier, des fois j'ai prêché des trucs, j'ai dit, ça, je pourrais pas reprêcher ça que j'ai dit. Parce qu'après, notre révélation augmente, notre connaissance augmente, et on connaît davantage le Seigneur, donc il y a des choses qu'on n'avait pas compris. C'est exactement comme ces arbres qui marchent. Ben c'est, oui, j'y vois, je sais ce que c'est un platane maintenant. Mais bon, il marche. Et c'est vrai qu'au début, on peut dire, tiens, ce chrétien, il est bizarre ce chrétien. Ça vous est jamais arrivé d'entendre des témoignages de gens et de dire, c'est un peu compliqué son truc. C'est cette affaire-là. Je vois, le Seigneur m'a ouvert les yeux, mais je vois des arbres qui se promènent. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais ça vaut la peine de dire, Seigneur, retouche-moi s'il te plaît. Retouche-moi dans ma vie personnelle. J'ai perdu ça, je ne vois pas bien. J'ai besoin de quoi on peut avoir besoin, même quand on est chrétien? Tiens donc, il faut m'aider. Allez, aidez-moi. Est-ce qu'on peut souffrir d'un problème de communion avec Dieu? Est-ce qu'on peut demander, Seigneur, touche-moi vraiment afin que je réalise l'importance d'une plus grande communion avec toi? Ben oui. Est-ce que Dieu va vous aider? Ben oui. Vous allez voir que votre emploi du temps risque de se réformer complètement pour qu'on puisse avoir davantage de temps. Communion, qu'est-ce qu'on peut encore avoir besoin? De paix. Est-ce qu'on peut... Il y a des gens, ils n'ont pas la paix. Moi, je vois, je discute avec des chrétiens. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'église. Ils sont tout le temps avec de la haine, de l'amertume. Ils sont objet de scandale pour les autres. Vous ne croyez pas qu'ils ont besoin de dire, Seigneur, touche-moi à nouveau? Vous ne croyez pas que qui serait le premier intéressé à bénir? Vous ne croyez pas que c'est le Seigneur? Vous ne croyez pas que Dieu est plus intéressé que nous à nous bénir pour que l'on soit des sources de bénédiction? Franchement, le premier, bien sûr que le premier c'est nous, mais est-ce que le Seigneur n'est pas intéressé à ce qu'on soit des gens pieux, des gens bénis, des gens touchés, qui arrêtons de voir des arbres, mais qui voyons ceux qui doivent marcher, marcher, et ceux qui doivent s'arrêter, s'arrêter? Vous ne croyez pas que le Seigneur est le premier intéressé? Lorsque les chrétiens rendent un bon témoignage, alors c'est un problème de foi. Seigneur, moi je resterai avec toi. J'ai besoin de retrouver la paix. Je l'ai perdue. Ça peut arriver de perdre la paix? Est-ce que ça peut arriver? Bien sûr. Pourquoi il dit rechercher la paix? Rechercher la paix et la sanctification. Ça, parce qu'on peut la perdre. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez bien compte que les choses, même si Dieu nous les donne gracieusement, simplement, on peut perdre. Le diable, il s'appelle le voleur. C'est un voleur. Et il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'on leur a volé certaines choses. Et on s'en rend compte quand on en a besoin. Moi, ça m'est arrivé une fois, en Polynésie, on m'avait volé des trucs, je m'en suis rendu compte que quand j'en ai eu besoin. Mais la paix, on n'en a pas besoin tous les 3 mois. Oui, il y avait une paire de baskets que moi, les footings, les baskets, j'en fais 20 ans, moi. Mais la paix, on n'en a pas besoin tous les 10 ans. On a besoin quand, la paix? Tout le temps. Et quand on perd la paix, qu'on ne se rend pas bien compte, je peux vous dire qu'on est retourné à un état de cécité complète. Seigneur, j'ai besoin de paix. Alors, de quoi on peut avoir besoin encore? D'amour. Tiens donc. Est-ce qu'on a besoin d'amour? Est-ce que c'est une bénédiction d'aimer? D'aimer inconditionnellement. C'est pas une bénédiction, ça? Est-ce que Dieu peut nous remplir de son amour? Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible qui laisseraient supposer que Dieu pourrait peut-être nous apporter d'un peu d'affection? Est-ce que c'est écrit? Mais vraiment, tout ce qui est dit sur l'amour. Seigneur, j'ai besoin que tu me touches à nouveau pour aimer les gens, pour aimer les hommes, pour aimer mes ennemis. Alléluia. Voilà. Et vous savez, quand Dieu vous touche, vous le savez. Quand il ne vous touche pas, vous ne savez pas trop, mais quand il vous touche, vous le savez. Je ne sais pas comment il s'est relevé ce lépreux, je ne sais pas. Cet aveugle, je ne sais pas comment ça s'est passé après. Mais je pense qu'ils n'ont pas dû rentrer à la maison de la même façon. Vous ne croyez pas? Vous croyez que le lépreux, il est rentré chez lui comme ça? Je suis guéri, je suis heureux. Non, moi je crois qu'il devait être bouleversé. Lui qui a risqué la lapidation, qui aurait pu se faire lapider avant d'arriver à Jésus. Est-ce qu'il aurait pu se faire lapider avant d'arriver à Jésus? Mais oui. Et je vous assure que son cœur devait battre pour plusieurs raisons. Mais il s'est retrouvé au pied du Seigneur, parce que ceux qui me cherchent, dit Jésus, ils me trouvent. Même si une ville, elle est maudite, comme Bethsaïda, qui avait vraiment cherché la désapprobation de Dieu. Même si un homme n'a pas le droit de s'approcher de Dieu, parce qu'à cause de son péché, il est complètement grillé, excusez-moi l'expression, nous pouvons nous approcher de lui. Et je vous encourage à le faire d'une façon simple. Seigneur, touche-moi. Jésus a dit à ses... Il n'a pas attendu Jésus. Je le veux. Sois pur. Et ce soir, Dieu peut vous dire, je le veux. Sois guéri. Je le veux. Sois éclairé. Oui, je veux te donner de l'amour. Oui, je veux te donner de la paix. Oui, je veux te donner une plus grande communion avec moi. Ce sont des choses que Dieu veut. Dépend du Seigneur que ta volonté soit faite. Eh bien, ces 3 éléments qu'on vient de partager, je peux vous dire que Dieu veut qu'ils se développent. Et ces textes sont là pour nous montrer que quel que soit le cas de figure, quelle que soit la situation, si pénible qu'elle soit, eh bien le Seigneur il a le pouvoir de vous bénir. Même si toute une famille, dans une famille de sorciers, par exemple, il n'y aurait que des sorciers dans une famille. Est-ce que si un de ses enfants crie à Dieu, est-ce que Dieu peut le sauver? Ouais. C'est évident. Même si je vous dis, mais voyez, parce que là on pourrait dire, tiens, Bethesda, c'est le gars il est disqualifié. Il était disqualifié. Vous voyez, on revient à ce texte, on ne l'a pas lu, mais comme on a un peu de temps, on va le lire. Regardez, Matthieu 11. C'est important de voir pourquoi Dieu a fait telle ou telle chose. Vous voyez? Voilà, que je ne me trompe pas, Matthieu 11, verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles en foison que les gens vont se repentir. Malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi, Bethsaida. Donc, vous voyez, il y a le jugement de Dieu. Malheur à toi. Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Et si vous lisez les autres textes, vous verrez que ce sont des villes qui ont rejeté catégoriquement le Seigneur. Comme ça arrive pour beaucoup de gens aujourd'hui qui rejettent catégoriquement le Seigneur. Mais dans un pays, vous savez, avec les lois qu'on a votées en France, je peux vous dire qu'on ne s'est pas approché de Dieu. Le pays en soi. Vous êtes d'accord avec moi? La perversion, les abominations, les débats qui ont lieu, etc., les lois qui sont votées, sont des lois qui font que le Seigneur peut dire « Malheur à toi, la France ». Mais je peux vous dire qu'en France, si quelqu'un cherche Dieu, le Seigneur se révélera et lui donnera la communion, la paix, l'amour qu'il a besoin, en proportion de sa foi, car il nous sera fait selon notre foi. Donc, soyons sérieux. N'oublions pas que non seulement les mains de Jésus ont béni ces hommes, cet aveugle, ce lépreux, donc il peut bénir tous les hommes. Dans une version, il est dit que cet homme était couvert de lèpre. Parce que bon, il y a des gens qui avaient la lèpre, mais il y a des gens qui étaient couverts de lèpre. Ça veut dire qu'on ne peut pas être un peu plus pécheur que ça. Et bien Dieu les a guéris. Donc si vous avez besoin d'être touché, approchez-vous de lui. Faites-le sérieusement. Ne le suivez pas. Oui, j'étais à la réunion, ça m'a fait du bien, c'était sympa. Ah, j'ai revu Nicolas, ça m'a fait plaisir de le revoir. Même si c'est pas vrai. Mais je veux dire, ça m'a fait plaisir de le revoir, etc. Mais c'est pas ça la grâce. Bien sûr que c'est bien de voir des frères. Mais il faut pas suivre de loin Jésus. Ils ont suivi Jésus. Mais ils sont passés à côté. Ils ont entendu un sermon qui les ont bouleversés. Ils ont dit, franchement, ce rabbin, comment il prêche, c'est super, c'est merveilleux. Mais ils ne se sont pas approchés de lui. Vous savez, un sermon, c'est une chose. Une prédication, c'est une chose. Lire la Bible, c'est une chose. Étudier, faire une étude biblique, etc., c'est une chose. Ça peut faire qu'on va suivre. Et c'est déjà pas trop mal, mais ça ne suffit pas. Il faut s'approcher. Et se dire, je veux me retrouver au pied du Seigneur. Sa main n'est pas trop courte. Je veux qu'il me touche. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le faire? Je vais me retrouver à tes pieds, Seigneur. Le temps qu'il faut. Ça, c'est pas forcément une question de temps. C'est une question vraiment de proximité. Ne doutez pas quand vous priez. Quand tu pries, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton père qui te voit. C'est extraordinaire, ça. Moi, vous savez, moi je suis, parce que vous êtes jeune, mais moi, je suis espanté, comme on dit chez nous, quand je vois qu'avec un téléphone, sans fil, on peut envoyer avec 8 numéros à la personne qu'on veut, par des ondes qui passent par des satellites à l'affaire de 3 secondes. Alors quand on voit les satellites à la vitesse à laquelle ils tournent, la précision que c'est, je ne pense pas qu'on réalise, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous envoyez un texto à Albertine qui est en Guyane, dans 5 secondes elle l'a. Oui ou non? Et vous ne croyez pas que Dieu est au-dessus quand même de cette technologie? Vous vous rendez compte, vous envoyez une photo, la personne en couleur, là, par les ondes. Je ne sais pas si vous réfléchissez, ça passe par des ondes. C'est quand même, moi, je trouve que c'est pas mal quand même. Vous croyez pas que Dieu, quand il dit, quand tu pries, je te vois et je t'entends. Vous pensez que Dieu est supérieur aux ingénieurs de France Télécom? Est-ce que Dieu est supérieur aux ingénieurs? Moi, je pense un petit peu plus. Donc, s'il vous le dit, que quand vous priez, il vous voit et il vous entend, laissez-moi vous dire que Dieu, il vous voit. Et il vous entend, il n'y a pas besoin de 8 numéros, il y a juste besoin d'un nom. Le nom précieux, le nom de Jésus. Alléluia. Et ce n'est pas la question de prononcer son nom. Parce qu'il y a des gens qui disent au nom de Jésus, répètent en boucle au nom de Jésus pour bien rappeler le numéro. Mais écoutez-moi bien, il n'y a pas besoin de rappeler le nom. Quand vous priez, si vous dites Seigneur merci pour ce repas, vous le dites à quel nom vous le faites? Ben, au nom du Seigneur, c'est pas, même si on ne le dit pas. Donc quand on prie, on invoque Dieu parce que Jésus-Christ est l'intercesseur et l'intermédiaire Donc, croyez-moi, il a touché cet aveugle, il a touché ce lépreux, et tous ceux qui se sont approchés de lui. Et on va vérifier si c'était le bon verset, si je ne me suis pas trompé dans Proverbe. Si c'était 7-17 ou 8-17. Proverbe 8-17. Vous voyez, je me suis trompé. Proverbe 8-17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Ah oui, vous pouvez dire gloire à Dieu. Je sais pas si on réalise la profondeur de ces textes. Vous le réalisez? Est-ce que vous réalisez ce qu'on vient de lire? Ceux qui me cherchent me trouvent. Il n'y aura personne dans les cieux, sur les milliards de milliards de milliards de gens qui ont existé, qui pourront dire je t'ai cherché et je t'ai pas trouvé. C'est impossible. Tous ceux qui cherchent Dieu le trouveront. Que son nom soit béni. Le lépreux l'a cherché alors que c'était lui, il était vraiment disqualifié. L'aveugle aussi, parce que la ville était sous le jugement du Seigneur, et pourtant ils l'ont cherché, et ils l'ont trouvé. Et ça sera pareil pour nous. Ceux qui s'approchent pourront être au bénéfice de ces mêmes percées qui continuent à bénir les hommes, parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ne nous contentons pas d'une prédication. Ne nous contentons pas d'une étude, de l'enseignement, des bienfaits, de la communion fraternelle et tout ce que vous voudrez. Appliquons-nous à nous approcher de lui. Faisons bien la différence entre la curiosité, qui est bonne, la bonne curiosité, et le besoin. Que son nom soit béni. On va fermer les yeux, on va lui demander qu'il nous aide à reproduire la foi de ces gens. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui a vraiment besoin de cet attouchement. Moi, je vous le dis, parce que Jésus le dit, si vous demandez, vous obtiendrez. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous frappez, il vous ouvrira. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui a dit. Et moi, je vous dis, pour indiquer bien que c'était lui, le Seigneur du ciel et de la terre, et non pas l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jacques ou les évangélistes, c'est Jésus qui l'a dit. Et moi, je vous dis, demandez, demandez. Et mes frères et sœurs, si on reproduit, ça aura les mêmes causes, aux mêmes effets. C'est obligé. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces simples textes qui nous montrent combien ta main s'est posée sur des gens qui normalement n'auraient pas dû être bénis. Oui, nous le savons, tu as aimé tous les hommes. Tu aimes tous les hommes et tu veux les sauver tous. Seigneur, merci pour la foi, la première fois où tu nous as touchés. Et pour les fois qui ont suivi, Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants, parce que non seulement ce sont tes mêmes percées, crucifiées, qui bénissent aujourd'hui les hommes. Seigneur, donne-nous de reproduire pour que nous soyons une fois encore touchés, en fonction de ces besoins qui sont là, auxquels tu veux répondre. Oui, nous le croyons, que tu t'appelles El Shaddai, que tu es le Tout-Puissant pour continuer à bénir tous ceux qui te chercheront. Seigneur, fais-nous grâce qu'après les réunions, nous ayons la même attitude que ce lépreux qui s'est retrouvé à portée de ta main. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen.